Frères et sœurs, je pense que nous sommes tous d'accord avec la deuxième lecture, l'épître de Jacques, qui nous dit que notre foi doit agir. Une foi qui n'agit pas est une foi morte. Je pense que si nous sommes ici dans cette église, c'est parce que nous avons cette conviction qu'il faut que notre foi soit vivante. Le fait d'aller à l'église est déjà l'expression d'une foi qui vit, mais ce n'est pas suffisant, nous l'avons entendu dans l'épître de Jacques. Et les lectures d'aujourd'hui nous poussent à aller plus loin justement dans cette compréhension. Notre foi doit être vivante, elle doit être agissante, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Jacques prend quelques exemples précis, concrets, mais ça ne peut pas être simplement l'application légaliste de ces quelques exemples qu'on devrait reproduire. Non, il s'agit d'aller beaucoup plus loin, d'aller rentrer beaucoup plus dans cette démarche de foi qui doit se traduire dans des faits concrets de notre vie. L'évangile que nous venons d'entendre au chapitre 8 de Marc, c'est l'évangile donc que nous lisons particulièrement durant cette année, eh bien nous sommes en plein milieu de cet évangile, donc je disais au chapitre 8, un évangile qui en compte 16 chapitres. Et nous sommes au milieu de l'évangile de Marc, et nous sommes dans un tournant de l'évangile de Marc. Jusqu'à présent, Jésus avait commencé à enseigner, à faire des miracles. Cela interpellait la foule, ça attirait la foule, ça interpellait les gens. Et on s'interrogeait sur qui était Jésus finalement. Et là, le passage que nous venons d'entendre, pour la première fois, Jésus pose la question déjà, et puis il y a cette réponse des apôtres qui disent voilà comment tu es perçu, Jésus. Et puis ensuite il y a cette réponse de Pierre qui répond au nom de tous les fidèles croyants, comme pratiquement tout le temps dans les évangiles, c'est toujours Pierre qui prend la parole quand il s'agit de parler au nom de la petite église qui est en train de se constituer progressivement. Et donc, nous voyons déjà ces réponses où Jésus est déjà perçu comme n'étant pas n'importe qui. D'ailleurs, rien que le fait que Jésus pose la question, ça peut interroger, parce que pour les gens, qui suis-je ? Est-ce que ça vous vient à l'idée de dire comme ça à votre entourage ? Pour les gens, qui suis-je ? Si moi je vous disais ça, vous diriez, bon, le curé de la paroisse, voilà, et vous avez raison. Je ne suis que ça. Par contre, Jésus, rien que le fait qu'il pose la question, ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir en Jésus qui spontanément n'est pas manifesté, n'est pas dévoilé spontanément. Il faut découvrir, côtoyer Jésus et découvrir Jésus, son identité profonde. Et donc, ils répondent, de fait, ils ne répondent pas « Tu es le charpentier de Nazareth » ou bien « Tu es le fils de Marie et de Joseph » comme on répondrait pour nous. Non, ils répondent, « Ah ben voilà, mais tu es Jean-Baptiste, Jean-Baptiste étant mort, Jean-Baptiste qui serait ressuscité, tu es Élie qui doit préparer le chemin du Messie, et puis tu es un prophète. » Voilà. Donc Jésus est reconnu comme étant déjà quelqu'un d'important, un prophète. D'ailleurs, c'est quelque chose qui sera retenu dans la foi, dans la religion musulmane, et bien, le Coran va retenir que Jésus est un prophète, et le plus grand de tous les prophètes. Plus grand même que Mahomet, d'ailleurs. Voilà, mais qui... Enfin, voilà, je ne vais pas développer, ce n'est pas mon objet. Mais en tout cas, Jésus est reconnu comme un prophète. Déjà, c'est beaucoup. Mais Jésus, en interrogeant ses disciples, il leur demande, est-ce qu'ils ont découvert plus ? Et pour vous, qui suis-je ? Et nous qui sommes ici, nous sommes un peu ses disciples. Nous sommes ses disciples, nous essayons d'être ses disciples. Et donc nous sommes, Pierre répond en notre nom. Je pense que nous serons d'accord quand Pierre répond, tu es le Christ, le Messie. Ça veut dire le Christ, ça veut dire le Messie, loin de Dieu, celui que le peuple attend, le peuple juif attend, pour libérer le peuple de toute forme d'esclavage. Et évidemment, à l'époque de Jésus, cette réponse était assez explosive parce qu'on était convaincu que, que le Messie, il allait chasser les Romains, il allait rétablir la royauté en Israël de façon il permette un rayonnement nouveau d'Israël avec une royauté qui demeurera. Et donc, cette réponse de Pierre est très forte et résonne très forte pour les Juifs de l'époque et aussi pour les Juifs d'aujourd'hui. Si vous jamais vous dites Jésus est le Messie, eh bien, un Juif, le Messie, c'est l'attente la plus importante pour un Juif encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la réponse à toutes ces attentes. Donc, voilà. Donc, Jésus, oui, tu es le Christ, le Messie. Voilà. Et donc, Jésus, partant de cette compréhension, donc, nous remarquons que Jésus, de fait, ne conteste pas. Il demande, au contraire, donc ça veut dire qu'il acquiesce, et il demande simplement le silence. Pourquoi ? Pour la raison que je viens d'exposer, c'est-à-dire que le Messie est attendu, certes, mais n'est pas compris dans sa mission, la mission que Dieu veut vraiment lui donner. Donc, comme il y a erreur sur le contenu de ce que le Messie va apporter, Jésus préfère que l'on attende, la suite de sa mission. Et donc il va demander le silence, et nous voyons, et il enchaîne en expliquant comment il serait Messie, comment il serait le Messie, quel type de Messie il va être. Il dit tout. Nous remarquons que dans ce que Jésus va dire, c'est la cœur du credo. Jésus va dire une partie du credo. Il faut qu'il soit condamné, qu'il souffre beaucoup, et puis qu'il meure et qu'il ressuscite. Bizarrement, il semblerait que les apôtres à l'époque, comme ça peut nous arriver aussi peut-être, n'entendent pas la résurrection. Ils ne comprennent pas, en tout cas, ils ne retiennent pas la résurrection. Ils retiennent que la souffrance est la croix. Et enfin, pas la croix, la mort. La souffrance est la mort. Et donc, Saint-Pierre, là encore, au nom de tous, aussi en notre nom, répond en disant « Mais il lui répond en lui faisant de vifs reproches, en le prenant Jésus à part et en faisant de vifs reproches. » C'est très intéressant cette réaction de Saint-Pierre qui le fait en notre nom, parce que finalement, ça renvoie à nous-mêmes quelle est l'idée que nous avons de Dieu et de la messianité de Dieu, de l'action de Dieu dans la vie, dans l'Église, dans notre monde. Quelle est l'idée que nous en avons? Et nous pouvons être tentés, bien des fois, de faire de vifs reproches à Jésus, à notre Seigneur, et lui dire « Écoute, la croix, la souffrance, c'est bien beau, mais ça ne devrait pas exister. Le mal, ça ne devrait pas exister. Tu devrais effacer tout ça. » Nous sommes tous, et moi le premier, nous sommes tous tentés par dire « Le Messie, nous avons la même attente que le peuple juif de l'époque, le Messie, eh bien, c'est un feu d'artifice, ça devrait être un feu d'artifice, qui résout tous les problèmes et qui nous donne une vie tranquille. » Nous sommes tentés par cette approche. Jésus, justement, corrige, et c'est la deuxième partie de l'évangile de Marc, c'est correction de la compréhension que nous avons du Messie. De fait, Jésus est le Messie, celui qui révèle qui est vraiment Dieu, mais il n'agit pas comme nous souhaiterions spontanément. Et donc, il nous faut accueillir cet enseignement de Jésus. Le Messie va souffrir, il va mourir et il va ressusciter. Mais nous retenons toujours, il va mourir. Et le problème est souvent aujourd'hui, même ceux qui disent résurrection, ils parlent beaucoup de la résurrection, souvent, nient la croix. C'est plus agréable. La résurrection sans la croix. Le problème, c'est enfin la mort de Jésus violente, il la nie. Enfin, il la nie ou la relativise, c'est plus confortable. D'autant que, dans la suite, si nous continuons le texte, donc nous sommes dans cette charnière de l'évangile de Marc, si nous continuons le texte, que voyons-nous? C'est que Jésus, ensuite, dit à la foule, donc à tous ceux qui sont là, celui qui veut me suivre, donc il faut choisir, et c'est bien de se le dire, c'est un choix. Nous pouvons ne pas suivre Jésus, même en étant croyant. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Jésus ne parle pas de la croix au moment où il parle de sa passion et de sa résurrection, mais il en parle pour les disciples. Je ne sais pas comment il s'exprimait, comment ça a pu être compris à l'époque, la croix était le supplice, voilà. C'était quand même très particulier, enfin c'était le pire de tout ce qui pourrait nous arriver, alors qu'il prenne sa croix. Donc de toute façon, on pouvait comprendre, c'était la souffrance, l'épreuve de la vie, voilà. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et là, on voit le lien que nous pouvons faire avec la vision que nous avons du Messie, la compréhension du Messie. Si nous comprenons bien que le Messie est un Messie souffrant, hein, tel qu'il était annoncé dans l'Ancien Testament, mais tel qu'on avait du mal à l'accueillir, eh bien, et que nous acceptons que ce Messie agisse de cette manière-là, et non pas par des éclats et des feux d'artifice, etc., pour résoudre tous les problèmes, si nous comprenons que son chemin est celui-ci, et que nous sommes invités à prendre le même chemin que lui, là, nous commençons à avoir une foi agissante, une foi chrétienne. Une foi agissante. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Et puis Jésus continue, hein, bon, vous vous souvenez, et Jésus continue en disant « Celui qui perd sa vie à cause de moi, la gagne. Hein, » c'est-à-dire qu'il la donne totalement. Alors, avoir une foi agissante, c'est entrer dans cette dynamique qui nous répugne tous spontanément, dans cette dynamique du disciple. Être vraiment disciple de Jésus, c'est-à-dire se mettre derrière Jésus, qu'il me suive, se mettre derrière Jésus, prendre notre croix, notre vie telle qu'elle est, ne pas nous révolter face au mal, face à tant de choses qui sont révoltantes, accueillir cette réalité, accepter que Dieu n'agisse pas de façon flamboyante comme nous souhaiterions, entrer dans cette sagesse de Dieu qui est compliquée à accueillir pour nous. Et ainsi, nous aurons accès à la résurrection. Qui perd sa vie, la sauve. Qui perd sa vie, aura la résurrection. Qui donne sa vie, aura la résurrection. Et je veux simplement terminer par ce petit témoignage que j'aime bien donner, donc vous l'avez peut-être entendu de ma bouche, d'un prêtre qui, au moment de sa conversion, donc un prêtre qui était prêtre depuis longtemps, c'est un prêtre ouvrier qui était prêtre depuis longtemps, et il va vivre une nouvelle conversion, comme ça arrive souvent. Hein. Dans une vie chrétienne, on vit plein de conversions successives. Eh bien, ce prêtre-là, il aura une vision au moment de sa conversion. Comme il était prêtre, donc il va voir l'agneau de Dieu, un agneau avec lui, qui l'accompagnait sur le chemin de sa vie. Il était prêtre, il vivait avec l'agneau, l'agneau était fidèle, il était à côté de lui. Mais il était à côté, légèrement en retrait, à côté de lui. Et là, dans sa conversion, il va comprendre la démarche qu'il faut faire. Il faut que l'agneau de Dieu, qui donne sa vie pour nous, hein, que l'agneau de Dieu passe devant lui et que ce soit lui qui le suive et non pas lui qui guide l'agneau. Ça, c'est la grande conversion chrétienne. Accepter d'être vraiment disciple de Jésus. Que le Seigneur nous y aide, que nous ayons une foi agissante de cette manière-là en acceptant que ce soit Jésus qui soit notre guide et que nous soyons vraiment ses disciples.